Il est 22h.
Parlons vrai. 22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. J'aime à rappeler que le parallèle entre l'érection chez l'homme et la lubrification chez la femme, c'est à peu près la même chose, mais évidemment, il ne faut pas comparer l'éjaculation avec le liquide qu'émettent les femmes fontaines, parce que c'est pas tout à fait la même chose quand même. Et c'est de tout ça dont on va parler avec mon invité Christian Jamin, gynécologue endocrinologue. Alors la lubrification, bon, ok, c'est un signe d'excitation comme l'érection et de désir aussi, mais chez la femme, lorsqu'on évoque sa sexualité, il faut toujours être prudent parce que chaque femme va fonctionner un peu différemment. Donc on va faire déjà un point sur cette lubrification féminine, en quoi elle varie en fonction du cycle, de l'âge, de la femme, de son désir. Et puis on abordera aussi la fameuse question du point G. J'invite d'ailleurs les femmes qui l'ont rencontré, ce point G, de venir témoigner parce que ça prouve bien que ce n'est pas un mythe, même si évidemment toutes les femmes ne pourront pas en témoigner. Enfin, on pourra parler du liquide qui est émis lors du phénomène fontaine, que là encore certaines ont expérimenté, tandis que pour d'autres, eh bien ça reste un mystère. Vous avez envie de participer à l'émission, je vous invite donc à nous appeler au 0826 300 300 et je vous remercie parce que je ne le dirai jamais assez, c'est avec vous qu'on fait cette émission, parce que sans vous, je crois qu'on, au bout de deux heures, Christian Jamin, on aurait l'impression de rabâcher, non ?
Oh non, 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 on a de la ressource.
Vous peut-être, mais moi je suis pas sûre. Hein. Non mais c'est vrai que c'est bon, le point G, ça s'appelle G parce que c'est un gynécologue du nom de Graffenberg qui un jour a émis cette hypothèse. On a tout entendu, hein, tout et son contraire sur ce fameux point G. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, en tant que médecin ?
Alors, j'ai envie de dire, sans vouloir vous contredire, c'est que dans les sécrétions vaginales, il y a aussi le confort vaginal qui n'a rien à voir avec la sexualité et qui est souvent très altéré au moment de la ménopause où on a perdu ses œstrogènes. Donc, il y a la sécheresse vaginale de fond. C'est pas une contrepétrie. Il y a la sécheresse vaginale lors des rapports, là on est dans un problème de lubrification, et puis il y a la lubrification qui vient aussi, qui est augmentée avant l'ovulation. Alors on peut toujours se dire que c'est pour faciliter
la montée des
spermatozoïdes. Oui. Enfin bref, la lubrification au sens large chez la femme, c'est beaucoup plus compliqué que chez nous, qui sommes un peu brutes de fonderie, chacun le sait. C'est-à-dire, on a envie, on a une érection. La femme, elle a tout un système de lubrification qui est important tout au long de sa vie.
Absolument, et je peux témoigner, en tant que femme, c'est vrai que parfois j'ai été surprise de beaucoup mouiller, alors qu'a priori il n'y avait pas spécialement de raison, et d'autres fois pas vraiment, alors que pourtant il y avait des raisons. Donc c'est pas un baromètre fiable. Hein. C'est déjà important de le dire aux hommes, parce que je sais que ça excite beaucoup les hommes qu'on mouille, hein, pour parler plus vrai et crûment et que tout le monde comprenne bien. Mais c'est pas parce qu'une femme est un peu sèche qu'elle n'a pas de désir. Quoi. C'est déjà peut-être une première idée reçue à laquelle il faut tordre le cou.
Ben, je pense que on va essayer de mettre un peu d'ordre dans toutes ces idées parce que, comme je le disais, c'est compliqué.
C'est-à-dire comme la sexualité féminine, à voilà. Chaque fois qu'on parle
et puis, le confort, c'est-à-dire que des femmes qui souffrent énormément de sécheresse vaginale après la ménopause ou après un cancer pour lequel on leur donne des traitements anti-hormonaux qui leur donnent des sécheresses vaginales et qui sont mauvaises pour leur sexualité. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu des travaux récents montrant que finalement on a plutôt le droit de les traiter que de ne pas les traiter. Enfin tout ça, je pense qu'on peut faire une belle émission.
On va essayer aussi de mettre un peu de fun dans cette émission. Oui. Et je voudrais donc revenir sur ce fameux point G. Vous, en tant que médecin, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Parce qu'on entend beaucoup de conneries aussi sur ce sujet. Hein.
Alors, oui, le point G, d'abord, il faut faire un petit peu d'anatomie, de savoir d'où ça vient, ce que c'est. Et donc, c'est pas un mystère. C'est la même chose que le clitoris, mais à l'intérieur, c'est la face interne du clitoris. C'est un peu l'équivalent du gland chez l'homme, c'est-à-dire c'est hypersensible. Et donc, ça a la même origine embryologique. Donc, tout ça, on va essayer de l'expliquer. Et puis, Il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas des grands scientifiques, mais qui ont compris assez bien où il fallait mettre le doigt pour faire du bonheur.
En fait, c'est l'endroit où arrivent les racines du clitoris,
pour
parler clairement. Et donc, c'est forcément un endroit un peu plus sensible dans le vagin, mais faut-il encore le stimuler, le réveiller, j'ai envie de dire. C'est un peu la belle au bois dormant, le point G.
Oui, c'est vrai, mais ce qu'il faut aussi savoir pour comprendre, c'est que finalement les hommes et les femmes partent au moment de l'embryogenèse de la même chose, c'est-à-dire c'est des tissus qui viennent du rein, qui se rejoignent pour faire les organes génitaux, et ça, en fonction des sécrétions hormonales pendant cette embryogenèse, eh bien il y a un pénis qui se développe, ou il y a un clitoris qui ne se développe pas, ou qui ne se développe pas de la même façon, mais ils ont la même origine embryologique, et les mêmes sensibilités, et les mêmes charges de plaisir.
Sauf que, comme le clitoris est plus petit, ben forcément les terminaisons nerveuses sont plus nombreuses, puisque c'est sur une toute petite surface.
Oui.
C'est une interprétation anatomique.
Oui, hein. Vous avez dit ça du bout des lèvres.
Je dis ça du bout des lèvres, on est d'accord. Voilà, donc déjà tout ça c'est dit. Et puis ce fameux liquide qu'émettent les femmes fontaines...
A rien à voir avec une éjaculation.
On est bien d'accord, c'est important de le rappeler.
L'orgasme féminin, c'est une espèce de lâcher-prise générale, jusque y compris... des sphincters, et quand on est dans un orgasme majeur, eh bien, tout s'ouvre, et y compris, parfois,
il
y a un peu d'urine qui passe, et donc, en général, les hommes sont très fiers d'avoir rendu
la
fontaine, les fontainiers, si je puis dire.
Et on les appelle les sourciers.
Ah, les sourciers, bon, ok. Et donc, en fait, c'est un marqueur de l'intensité de l'orgasme qui est l'intensité du lâcher prise.
Sauf qu'on peut quand même être femme fontaine et donc émettre ce jet sans avoir un orgasme total. C'est ça qui parfois surprend aussi un peu les femmes, notamment avec des jouets. Ça arrive assez fréquemment aussi.
Oui, puis il y a des femmes qui ont des orgasmes extrêmement intenses sans pour autant libérer de l'urine.
On est bien d'accord. Donc chaque femme varie, quoi.
Voilà, on fait ce qu'on peut.
Ouais, on fait ce qu'on peut. C'est compliqué, hein, les femmes, et c'est pour ça qu'il faut toujours bien rappeler que on est tous et toutes d'abord des individus, et que voilà. Mais nous, on est là pour éclairer tout le monde et que chacun trouve son chemin. Hein.
Oui, et puis tout ça, c'est quand même la preuve que la lubrification et l'orgasme sont des phénomènes neurologiques et qui viennent de très loin dans l'organisme, du cerveau en général, pour déclencher tout ça. C'est pas un petit point sur lequel il faut.
C'est pas un starter, non.
C'est pas un starter. Voilà.
Ça c'est sûr. Sinon, ça serait trop facile.
Oui.
Il faut que vous soyez un petit peu laborieux, hein, messieurs.
Oh.
Pour arriver à nous faire jouir. Faut quand même reconnaître.
Il y a des fois où c'est plus facile que d'autres.
C'est vrai. Mais il y a des meilleures langues que d'autres.
Oui, c'est ça.
Bon, allez, on vous donne la parole dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à nous rejoindre.
Sud Radio Figeac.
103.8.
Sud Radio.
I don't care if you do.
sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh.
Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Eh bien, c'est pas les points sur les i qu'on va mettre, mais c'est les doigts sur le point G, hein, Christian Jamin. Vous êtes gynécologue, endocrinologue, et on commence avec Élise. Bonjour Élise, merci de prendre la parole.
Bonjour Brigitte et bonjour Christian. Oui, merci de me la donner aussi. Alors, dans ma situation, je vais faire un petit peu un exposé, si je puis dire. J'ai bénéficié d'un compagnon pendant un temps qui a su me rendre très femme fontaine. J'ai jamais vécu ça avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, avec lui, ça s'est produit.
Mais tant mieux. Enfin, si ça vous a plu, oui. Parce qu'il y a des femmes que ça peut déranger. Hein, ça dépend des femmes.
Oui, mais bon, lui, avec lui, c'était bien, mais j'étais très amoureuse. Et puis il savait. Hein. Moi, j'avais aimé une fois une expression qui avait été donnée par une des personnes qui venait sur votre antenne et qui disait, pour être femme fontaine, il faut un bon sourcier. Je ne sais plus qui avait formulé ça, mais j'avais trouvé ça intéressant.
Ben, c'est vrai. Mais il faut aussi une femme qui accepte de lâcher, hein. Parce que y a des femmes, par exemple, qui sentent à un moment donné que ça va peut-être couler, hein, pour utiliser un mot que tout le monde comprendra, et qui du coup vont se retenir, et à ce moment-là, le phénomène peut pas se produire. Hein. Donc vous avez su, peut-être parce que vous étiez amoureuse, mais en tout cas vous avez su vous laisser faire.
Oui, c'est vrai. Et puis maintenant, pardon, je sais pas si je peux continuer.
Mais si, allez-y.
Donc, en fait, maintenant, je suis ménopausée et je n'ai aucun symptôme désagréable, comme j'entends les bouffées de chaleur, etc. Mais par contre, mon gros problème, c'est la sécheresse. Alors, ma gynéco m'a prescrit des ovules et de la pommade, mais j'ai envie de dire que ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, ça change rien à ma vie. je mets parfois de l'huile de coco. Ça me fait le même effet, en fait. Donc, je suis un peu désorientée par la solution proposée.
D'accord. Et elle ne vous a pas proposé un traitement hormonal substitutif ?
Du tout.
Et vous seriez peut-être pas contre, je sais pas, enfin je parle sous...
Ah bah oui, je serais même favorable.
Je donne même la parole à Christian Jamin qui répondra mieux que moi à ce sujet délicat.
Oui, alors, d'abord quand vous dites que ça vous a pas apporté grand-chose, on parle de quoi ? Parce que les traitements hormonaux locaux, les ovules, comme vous l'avez signalé, ça fait disparaître la sécheresse de base. Mais c'est pas ça qui réveille le désir, c'est pas ça qui réveille l'orgasme. Donc ce sont deux choses différentes. Donc le traitement qu'on vous a donné, c'est un traitement pour le confort et pas seulement pour le confort, parce qu'il faut pas oublier. Alors on va pas faire l'émission là-dessus, on n'est pas sur une émission sur la ménopause, mais le vagin a la même origine embryologique que le bas de la vessie, et donc d'avoir une bonne hydratation au niveau du vagin, c'est important aussi pour la vessie. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec la lubrification qui est liée au désir, qui là est un phénomène neurologique, c'est-à-dire que les vaisseaux s'ouvrent et font passer du liquide qui est là, ce qu'on appelle mouillé.
Voilà.
Alors que c'est pas la même chose que ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'humidité de base qui est nécessaire au confort vaginal et vésical.
Oui, donc il faudrait, pour que ce soit bien clair pour toutes, hein, et pour tous d'ailleurs, normalement un vagin, il y a une humidité naturelle qui est importante et qui devrait rester là, qui diminue à la ménopause.
Qui dépend des hormones, très bien.
On est d'accord. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle la lubrification qui arrive quand on est stimulé ou quand on a du désir dans le cerveau. Parce que on peut voir un film érotique ou porno et mouiller même sans s'en rendre compte.
Mais voilà. Par ailleurs, ce désir, il vient du plaisir qu'on anticipe. Et donc si on a une sécheresse vaginale de base, si je puis dire, eh bien ça, le rapport fait mal. Donc si le rapport fait mal, il apporte pas de désir, donc il apporte pas non plus
de lubrification.
Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, sans mauvais jeu de mots. Et
le serpent, il peut pas rentrer, hein.
Voilà. Donc c'est pas la même chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Oui, je pense que là c'est clair pour tout le monde, c'est clair pour vous, Élise.
Oui, tout à fait. Bon, c'est bien d'avoir précisé, oui.
Donc, il faudrait déjà voir si, quand vous êtes un peu dans le désir, ou quand, par exemple, vous vous masturbez, que vous vous excitez, est-ce qu'il y a un peu de lubrification?
Très, très peu. Alors qu'avant, je n'avais absolument aucun souci. Mais maintenant, c'est vraiment...
Comme s'il y avait quelque chose dans le cerveau qui disait stop, c'est fini, on joue plus en bas.
Ben parce que je c'est sec en bas. Alors
oui.
J'essaye de faire ce qu'il faut, mais ça me
me bloque. Mais voyez, Élise, c'est important de comprendre qu'il y a une relation très étroite entre l'esprit et le corps. Et dans votre cas, on se pose la question, est-ce que c'est le cerveau qui d'abord a dit non, ou est-ce que c'est le corps qui dit non et qui fait que le cerveau dit non. Vous voyez, ça peut être l'un ou l'autre. Et moi, je crois que c'est vraiment important, parce que je reçois énormément de messages de femmes qui, après la ménopause, n'arrivent plus à jouir, n'arrivent plus. A priori, il n'y a aucune raison. Donc, il faut toujours mettre en cause peut-être ce qui se passe aussi dans la tête. Je dis pas que c'est votre cas, j'en sais rien. Hein. Mais et alors, est-ce que le traitement hormonal substitutif pourrait arranger Élise ou pas ?
Alors, il y a ça, on est dans une discussion compliquée. Comme je le disais, il y a l'humidification de base qui est indispensable au plaisir. Et le plaisir est indispensable pour anticiper le désir. Donc là, déjà, il y a un lien. Quant à ce dont vous parlez, c'est-à-dire la libido, au sens classique du terme, ça n'a pas grand-chose à voir avec les hormones. On n'a jamais trouvé jusqu'à maintenant, de médicaments ou de traitements pour augmenter la libido. Et comme vous le disiez, la libido, ça vient du cerveau. Et donc, ça vient de tout un passé.
Mais est-ce qu'un traitement hormonal substitutif remettrait un peu plus d'hydratation dans le vagin?
Oui.
Ben voilà,
c'est la réponse est là, c'est-à-dire que ça traite le fond, si je puis dire.
Donc s'il y a un peu plus d'humidité dans votre vagin, peut-être que ça peut relancer votre désir.
Oui, mais donc, c'est même indispensable.
Donc c'est peut-être ça.
En fait,
vous voyez.
Moi j'ai toujours envie. Enfin moi j'ai des jouets, j'ai tout ce qu'il faut, mais ça me, ouais, il y a quelque chose qui me bloque parce que c'est sec.
Oui, mais Élise, encore une fois, je reviens sur ce sujet. Votre corps vous dit quelque chose et vous n'avez peut-être pas interprété comme il faut. Et voyez, parce que on a parfois tendance à force de travailler sur les femmes, je me rends compte à quel point la ménopause parfois ferme quelque chose chez les femmes. Il n'y a aucune raison que ça se ferme. Donc, essayez de voir qu'est-ce que signifie pour vous le fait d'être ménopausée. Qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça a signifié pour vous?
D'accord, ok. Oui, c'est parce que là, moi, je l'appréhendais pas. J'avais pas d'angoisse. Je l'ai eu très tardivement, d'ailleurs, hein. Il y a deux ans, à peu près, puisque j'ai genre 60 ans cette
année. Mais qu'est-ce que ça signifiait pour vous? Vous répondez pas à ma question.
J'avoue que je ne sais pas trop répondre parce que
c'est pourtant la réponse essentielle que toute femme devrait se donner, parce que si ça signifiait pour vous l'arrêt de la fertilité, ça peut être un frein à votre sexualité.
Oui, alors
je dis pas que c'est ça. Hein. Je vous invite juste à vous interroger pour que vous alliez mieux. Hein. C'est juste ça mon objectif.
Sûr. Oui, on va le dire, mais ça ne va pas être le sujet du jour. C'est-à-dire qu'il se passe tellement de choses dans la vie d'une femme aux alentours de la cinquantaine, entre l'altération de l'image qu'elle a d'elle-même, entre tous les soucis de la vie de cet âge-là, avec les parents malades, etc. Donc on va pas
reparler
les enfants qui s'en vont, etc. L'image d'elle-même, et puis cette sécheresse qui rend les choses pas tentantes, si je puis dire.
Et le nombre d'hommes qui quittent leur femme ces âges-là, parce qu'ils en veulent une plus jeune, pour justement continuer à avoir du désir.
On reparlera de ça un autre jour, parce qu'on n'a pas toujours la même vision des choses, vous le savez bien.
C'est vrai, mais vous avez le droit de pas être d'accord avec vous le savez bien aussi. Donc tout ça, Élise, faites un petit point aussi dans votre tête, et puis peut-être un traitement hormonal substitutif, et puis youpi.
Et reprenez-vous, confiance en vous. Je pense que ça c'est le point majeur de la ménopause, c'est que c'est une espèce de rupture dans la tête, plus que dans presque autant que dans le corps, sur l'image de soi-même. Et donc, soyez fiers de vous.
Et soyez sûre, Élise, que malgré votre âge, vous allez toujours continuer à plaire aux hommes si vous êtes dans le désir. Donc.
Merci beaucoup. Merci pour vos conseils à vous deux.
Merci à vous. On fait une petite pause et on va écouter un témoignage de Femme Fontaine dans un instant, après le Love Conseil, l'art de la séduction au féminin. Tiens, justement.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
On a tous ce copain, cette cousine, ce voisin qu'on admire parce qu'il donne son sang régulièrement. Et si c'était le moment pour vous d'en faire autant? Oui, si là, tout de suite, vous l'appeliez pour lui proposer d'aller donner votre sang ensemble. En juin, tous unis par le don. Rendez-vous sur le site Don de sang de l'établissement français du sang.
Sud Radio Millau.
101.4.
Sud Radio. Ne bougez pas. Dans un instant, retour de Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Elle a poussé la table basse et monté le son à fond. Il faut bien faire de la place pour virevolter dans un petit salon. Des bonds sur le canapé, sans complexe, elle se déchaîne. Ce qui bloque, elle laisse aller. Frustration, remords, ce qui peine et freine. Elle danse. Elle danse. Pour tout envoyer valser, elle danse. Pense qu'elle devrait plus souvent danser. Sa fille entrée par mégarde surjoue la consternation. Les ados, quand ils nous regardent, adorent lever les yeux au plafond. Elle grimace que c'est gênant. J'aime le sourire qu'elle retient. Elle ne résiste pas longtemps quand sa mère l'entraîne par la main. Allez viens. Cette fois avec E-N-T, elle pense. Elle pense qu'elle devrait plus souvent danser. Chez lui en face, espionne le balai domestique. Même s'il entend surtout les basses, va pour se plaindre de la musique. Mais les deux folles qui s'agitent ont l'air si libres, si heureuses, qu'il en tape du pied en rythme. Les folies sont contagieuses. Il danse. Il danse. Lui, ça s'appelle guincher. Il pense. Il pense qu'on devrait plus souvent danser. Elle danse.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, le Love Conseil.
Eh bien, nous allons parler de l'art de la séduction au féminin, Christian Jamin. Et comme je sais que vous êtes un homme qui aime les femmes, qui les regarde, vous allez pouvoir me dire si vous êtes d'accord avec ce Love Conseil. Ce qui rend une femme charismatique, au point de la rendre irrésistible, ce n'est pas sa beauté ni une technique particulière. La séduction, ça réside dans un naturel et une capacité à être féminine dans une intimité telle que l'homme se sent invité. C'est joli, hein. Vous êtes d'accord avec ça?
Je suis esbobi.
Bon, alors je ne vais pas le répéter, hein. Vous écouterez en podcast si vous voulez, mesdames, entendre. Bon, bref, en d'autres termes, il faut qu'on croie en soi, qu'on croie en sa valeur personnelle. Et c'est vrai que quand on détaille, je me suis amusée à détailler le physique de certaines stars comme Madonna ou même Marilyn Monroe. Si on regarde bien, c'est pas des beautés parfaites, hein, mais c'est des bombes sexuelles. Hein. C'est des femmes qui dégage quelque chose. Donc, à vous, chaque femme, de choisir votre style et de le développer. Alors, je vais vous donner quelques pistes. La femme mutine, hein, c'est celle qui a un petit peu l'air ingénue. Ça vous fait craquer, hein, Christian.
Oh bah, oui.
Une femme un petit peu, alors exotique, hein, c'est-à-dire une femme un peu différente, qui opte aussi pour des couleurs, pour quelque chose qui envoie dans les îles, hein, par exemple. L'élégante, hein, le chignon, c'est encore quelque chose qui séduit beaucoup les hommes, hein, quand c'est fait avec beaucoup de avec juste une petite boucle qui descend, hein. Et qui donne envie de défaire le chignon, en quelque sorte. Hein. Je vois que ça vous amuse beaucoup, mon Love Conseil. Ensuite, il y a la sportive, hein, c'est donc celle qui a une silhouette très en forme et qui a l'air d'être prête pour toutes les acrobaties, n'est-ce pas? La fougueuse, hein, alors c'est les femmes qui ont des yeux de braise et qui ondulent bien des hanches, hein, qui donc sont certainement très aptes au coït. Les femmes intelligentes, on dit bien femmes à lunettes, femmes à...
Ah oui, à quéquettes.
C'est ça, hein. Les sensuelles, donc là évidemment c'est le charme du corps, les gestes sensuels, puis évidemment peut-être un petit décolleté ou une jupe un peu fendue. Et puis la sauvage aussi, elle plaît, hein, le côté un peu panthère. Bon, alors je pourrais continuer un petit peu, je pourrais tenir encore peut-être 10 minutes. Hein. Non mais c'est vrai, c'est important.
Mais elles ont toutes un point commun.
Oui.
Toutes vos femmes, celles que vous venez de décrire et des milliers d'autres.
Ah oui, lequel?
C'est leur volonté de séduire.
Absolument, mais pas pour séduire.
Mais pas de manière uniforme, pas de manière... Mais voilà, c'est...
Elles ont envie d'être ce qu'elles sont.
Voilà.
Et elles affirment ce qu'elles sont.
Elles ont envie d'être désirées. Et chacun utilise, selon son passé, son présent, utilise quelque chose qui va attirer l'homme. Pourquoi? Mais parce qu'on aime tomber dans les pièges.
Dans nos filets. Alors, c'est Amaï, c'est comme ça qu'on prononce votre prénom?
Bonjour, Ami.
Bonjour. Bonjour, Ami. Vous avez donc Bonjour. Envie de nous décrire ce qui vous est arrivé? Je suis toute oui, et je crois que Christian Jamin aussi.
Alors, donc, moi, depuis très longtemps, enfin, depuis le début quasiment, je suis femme fontaine. Donc voilà, au début, c'était assez surprenant.
Toute jeune, donc.
Ouais, bon, après, je me suis découverte assez tôt, j'ai eu une copine très tôt, donc tout ce qui était clitoris, le plaisir du clitoris, en fait, est venu très vite, et j'ai compris très vite que c'était plaisant.
Oui.
Et quand sont venus les hommes, voilà, le partage et le, comme vous dites, le lâcher prise, je pense, hein, être ouais, en confiance avec son partenaire.
Mais voyez, ce qui est déjà très intéressant dans votre témoignage, j'entends de plus en plus de jeunes femmes qui découvrent leur sexualité d'abord avec une femme, et ça, c'est finalement un très bon apprentissage.
Ouais, je pense aussi.
Oui, non, mais c'est un message qu'on peut envoyer aux hommes d'ailleurs. Hein. Si vous avez envie, très jeune, d'être avoir du succès auprès des femmes, conduisez-vous comme une lesbienne. Ça vous fait rire, Christian Jamin.
Je pense que pour les hommes, c'est déjà difficile de se comporter comme un homme. Donc de là à leur demander de se comporter comme une femme,
c'est... Non, mais enfin, c'est une image, évidemment, mais
oui, bien sûr.
Je voyais ce que je veux dire, parce que c'est vrai que vous avez donc, grâce à une rencontre avec une femme, vous avez su vous découvrir l'une et l'autre, et donc vous avez su, comment dirais-je, éveiller votre vagin, votre point G, votre clitoris, enfin, ça y est, vous étiez donc ouverte pour la rencontre après avec un homme.
Ouais, voilà. Alors, par contre, c'est vrai que en tant que femme avec les hommes, c'est toujours un sujet délicat à aborder, en fait. Savoir si ça va être accepté ou repoussé.
Eh oui, parce que généralement, la plupart des hommes sont assez friands.
Oui, certains, oui, mais d'autres non, en fait. Peut-être par la peur de l'inconnu, tout simplement. Mon dernier partenaire en date, bon, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, et comment dire, au départ, je le sentais pas forcément avenant. Donc, inconsciemment, on se retient en tant que femme hein, de ne pas. Enfin, on prend du plaisir, mais on le prend pas libérément.
Oui, vous retenez le phénomène Fontaine, oui.
Ouais, voilà. Et bon, il y a eu, on va dire qu'il y a la première fois où c'était tellement bien que j'ai pas pu me retenir. Et ça a été, tout compte fait, une bonne surprise pour lui. Et tout compte fait, maintenant, c'est quelque chose qu'il rechercherait.
Oui, c'est ce que...
Allez-y, Christian.
Oui, vous avez dit une bonne surprise. Et ça, je pense que c'est le mot important. C'est-à-dire que l'homme se sent valorisé parce qu'il a réussi à vous faire jouir jusqu'au bout, si je puis dire, jusqu'au bout du bout.
Là, il a la preuve.
Et là, alors là, il se prend pour un génie. Et donc, c'est ça qui va le faire bander. C'est clair, les hommes ont besoin d'être valorisés pour avoir une sexualité, plus importante. Et donc le fait que vous lui ayez montré à quel point il vous faisait jouir, d'abord parce que c'est pas si fréquent, eh bien vous l'avez rendu encore plus viril.
Probablement, oui.
Et donc la première fois que vous avez découvert le phénomène, c'est donc avec une femme, on est bien d'accord?
Non,
c'était avec un homme.
C'était une jeune fille. Hein, on était des gamines. Hein,
D'accord.
C'était vraiment le jeu de la découverte et tout. Après, ça a été avec un homme.
Et c'est donc avec une pénétration ou avec un toucher vaginal?
Ça a été avec un toucher vaginal. Hein.
Oui.
Avec la pénétration, c'est venu un petit peu plus tard. Hein.
Oui, c'est généralement comme ça que ça évolue chez les femmes. C'est d'abord un toucher au bon endroit et de manière assez...
Oui, un bon clit, voilà, ça peut...
Oui.
Ça peut déclencher les choses. Mais par contre, voilà, je préviens aussi toujours que, on va dire... Le litrage ne sera pas forcément le même, même si le plaisir sera bon, mais je ne sais jamais ce qui va sortir.
Des fois, j'ai l'impression
que je vais exploser. En fait, il y a 3 gouttes. Et des fois, voilà, je me dis, oh, ça ne va pas être si énorme que ça. Et en effet, si.
Alors, le conseil qu'on donne souvent pour les femmes qui ne sont pas fans de jaillir, justement, on leur conseille d'aller uriner avant. Vous êtes d'accord avec ça, Christian Jamin?
C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'études sur ça pour savoir, mais il n'y a pas si longtemps qu'on le sait d'ailleurs, hein, savoir d'où vient ce liquide.
La fameuse glande de Skin.
Voilà, on a pendant longtemps dit que c'était des sécrétions des glandes de Bartholin, de Skin, etc. Et en fait, on s'est aperçu que volumétriquement parlant, ça tenait pas debout. Et donc, je crois qu'il y a des Français qui ont travaillé là-dessus il y a une trentaine d'années. Donc, pendant très longtemps, ça a été un mystère. Et c'est grâce à des études biochimiques qu'on a pu démontrer que c'était effectivement une ouverture brutale du sphincter de la vessie, comme il y a une ouverture globale des sphincters ou du lâcher prise au moment de l'orgasme. Mais c'est assez récent de démonstration.
Oui, donc moi, par précaution, ne serait-ce que par la peur, l'appréhension des odeurs qui pourraient... Donc je fais attention à boire plutôt de l'eau qu'autre chose avant, et je vais uriner avant, en règle générale, voilà. Et, oui. Du coup, je préfère le carrelage au coton
des
ondes de couette.
C'est vrai que c'est le souci quand on est dans un lit, ça mouille vraiment, ça peut vraiment mouiller les draps, c'est sûr. C'est vrai.
Du coup, ça amène un peu plus de folie, un peu plus de piment dans la vie sexuelle, quoi, parce que, voilà, le lit, pas trop, quoi.
Oui. C'est vrai, mais c'est fun, enfin je veux dire...
Moi j'aime bien, hein.
Oui, et puis c'est une sensation qui est quand même un peu différente, je trouve aussi, quand il y a ce jet qui sort, quoi. Il y a vraiment une sensation de lâcher prise, quoi.
C'est ça, c'est libérateur.
Voilà. Alors je crois aussi qu'il faut, qu'il y a une perte beaucoup de. Alors je sais plus de quoi, c'est de fer ou de manier ou de vitamine. Enfin, je sais plus. Quelqu'un m'avait dit qu'il fallait. Mais je me souviens plus exactement de ce qu'on m'avait dit. Je crois qu'il faut pas trop s'inquiéter. Le plaisir et l'orgasme apportent bien d'autres vitamines et de fer et de je ne sais quoi. Donc, bon en balance, c'est plutôt gagnant-gagnant. Hein.
Oui, le cytosine et la dopamine comblent le tout. Et
on est bien d'accord. Ben, merci beaucoup en tout cas de ce témoignage, ami, qui peut-être encourager certains hommes à devenir sourciers, hein, après tout.
Allez-y, messieurs.
Merci beaucoup. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On est là pour vous y répondre.
Écoutez Sud Radio Le Havre en DAB+.
Sud Radio.
I thought that we had something good in our hands. In a minute, it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when it breaks your heart next summer.
Breaks your heart next summer. If
breaks your heart next summer, baby, I'll be waiting here. Call me when you're all fucked up, my lover, I'll be there to leak your tears. Next summer.
22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Christian Jamin, on va tout vous dire sur le point G, la lubrification féminine. Et on écoute Laura maintenant. Bonjour Laura.
Bonjour Christian, bonjour Brigitte.
Bonjour Laura.
Merci de m'accueillir. Parce que je voulais témoigner effectivement, parce que depuis mon début de la sexualité, en fait, j'ai appris à connaître au fur et à mesure un petit peu toutes mes sensations, et je m'aperçois finalement qu'à 50 ans, j'ai couvert des trucs que finalement j'aurais su plus tôt, ça m'aurait vraiment aidé à partager des meilleurs moments encore.
Oui, mais il faut bien qu'il y ait des avantages de vieillir quand même, Laura, sinon où est-ce qu'on va, hein? Si on sait tout quand on a 20 ans.
C'est oui, mais moi ça m'a donné quelques complexes, parce que quand je faisais l'amour avec un garçon,
ouais.
En fait j'avais une lubrification qui se faisait dans la nuit, et quand je me réveillais le matin j'étais vraiment trempée. Et ça c'était quelque chose où finalement je le supportais mal, parce que je me disais la nuit c'est Le moment s'est bien passé, et pourtant le matin je suis trempée, qu'est-ce que j'ai, pourquoi c'est mouillé comme ça. Et mes partenaires qui n'étaient pas forcément expérimentés non plus, ils n'étaient pas dans la joie, voilà. Alors
mais
que je comprenne, si ça se produit,
excusez-moi, je vous coupe, mais qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que vous aviez des relations sexuelles avec assez peu de lubrification. Par contre, la nuit, quand vous dormiez, vous aviez beaucoup de lubrification le matin, alors qu'a priori, il n'y avait pas eu un fantôme qui était venu dans votre lit. Hein, c'est bien ça.
Alors, j'ai toujours lubrifié bien pendant les rapports.
Oui.
Mais il y avait une surlubrification quelques heures après les rapports.
D'accord. Et ça s'explique,
ça? Au matin.
Christian, ça s'explique, ça?
Je suis en train de réfléchir. Oui, c'est très inattendu, ça.
Bon. Ça veut dire qu'il y avait peut-être dans votre cerveau une excitation du moment qui s'était passé et qui faisait que vous étiez excité dans votre sommeil, peut-être.
Oui, je pense que c'était ça. Avec le recul, je pense que je repensais à ces bons moments. Ça m'avait excité, j'étais bien, et que je revivais le moment la nuit, et le matin, quand on veut remettre ça, je me dis là c'était étrange. Voilà. Et là aujourd'hui, le partenaire, il est heureux de voir ça, parce que il me dit tiens, je suis encore excitée, plus jeune. Peut-être que j'en ai eu même des complexes, alors que maintenant on me dit non, avec le cul, c'était pas possible.
Ça, c'est vraiment important ce que vous dites. Le nombre de jeunes femmes qui ont des complexes de trop mouillé, c'est terrible. Hein.
C'est fou.
Oui, parce que c'est quand même une preuve de bonne santé sexuelle quand même. Non?
Exactement. Et c'est en ça où je voulais témoigner, en me disant, si j'avais vraiment su ça, ou si j'avais pas eu des compagnons qui m'avaient rassuré en disant, c'est sympa, je pense que je l'aurais pas vécu de la même façon.
Mais je vous écoute avec attention, et c'est intéressant parce qu'on a vraiment l'impression que vous avez deux types de désirs. Vous avez un désir mécanique, si je puis dire, entre guillemets, d'excitation au moment du rapport. Et puis, on a l'impression que votre cerveau se libère après et fait que vous avez un deuxième type d'excitation qui est cette espèce d'autorisation du cerveau à vous laisser aller encore davantage. C'est une hypothèse, mais je pense que effectivement vous avez deux mécanismes d'excitation, un mécanisme, j'allais dire réflexe, et un mécanisme de lâcher prise par le cerveau. Je ne vois pas d'autre explication.
C'est pas faux. Parce que moi, comme on dit, je suis très du matin. Parce que c'est comme si il y avait eu une période d'acceptation. Et puis effectivement, une fois que je suis en confiance, encore plus en confiance, je me sens encore mieux, et plus libérée, plus ouverte.
Oui, Mais bon, avec Brigitte, on a beaucoup parlé de ça. Et vous, mais ma théorie est que c'est le cerveau, moi, qui dirige tout. Contrairement à ce qui se passe chez l'animal, où l'animal, il y a un lien direct entre l'odorat et l'orgasme, ou le désir plutôt, alors que chez la femme, tout passe, parce qu'on a perdu, avec l'évolution, on a perdu ce lien direct entre l'olfaction et le coït, et on a un système qui bloque tout ça, qui s'appelle le cerveau. Et Dieu merci, ce système se lève, et chez vous, il se lève un peu plus tard. Et il se lève deux fois, si je puis dire.
Ouais.
Et le rideau se lève deux fois.
Et c'est vrai qu'il y a énormément. Alors après, est-ce que c'est culturel ou inné? Moi, je m'en fous, parce que de toute façon, c'est comme ça actuellement, en 2025. Mais c'est quand même beaucoup plus inhibé chez la femme dans le cerveau que chez l'homme.
Oui.
Ça, c'est une évidence. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'expliquer comment fonctionne la sexualité féminine, si on veut libérer un petit peu tous ces blocages et ces inhibitions.
Bon, je vais défendre les hommes, là, quand même. Hein?
Non,
nous, on a aussi deux niveaux de désir. On a un niveau, j'allais dire,
pulsionnel,
la masturbation, la fellation, etc., nous libère. Et puis après, on a un désir profond au niveau du cerveau.
Bien sûr. Mais vous avez moins d'inhibition. Il y a des hommes très inhibés. Hein. Attention, je dis pas qu'il y en a pas, mais il y en a beaucoup moins que de femmes.
Oui, mais je pense que ce qu'on vient de ce dont on vient de parler et qui est très intéressant, c'est ces deux niveaux de désir, un désir très immédiat et un désir qui est vraiment très profond au niveau du cortex.
Et j'ai remarqué que quand, par exemple, avec les enfants, on a un peu moins de désir, et comme j'aime ressentir mon corps qui mouille,
oui,
je me force à avoir des pensées sexuelles. Et j'imagine un rendez-vous avec un inconnu.
Alors, vous vous forcez, non.
Ouais.
Vous faites fonctionner votre imaginaire érotique. Ne dites pas que vous vous forcez, c'est pas bien. C'est important, les mots. Vous voyez? C'est-à-dire que vous avez l'intelligence, Laura, à ce moment-là, de mettre en route votre imaginaire sexuel, érotique. D'accord ? Vous voyez la différence ? Parce que se forcer, ça voudrait dire qu'il y a une obligation... Non, il faut vous libérer de cette idée que... Si toutes les femmes avaient cette capacité à faire fonctionner leur imaginaire érotique, il y aurait peut-être moins de problèmes de frigidité.
Oui, c'est ça. Dans le mot, c'est peut-être trop fort, mais c'est parce que quand on est pris dans un tas de problèmes du quotidien, ben il y a un petit effort à faire quand même pour le faire.
Oui, un effort, oui, mais un effort, c'est pas forcément, on se force pas pour faire un effort. On sait ce que va nous apporter cet effort, donc c'est une jouissance de faire cet effort.
C'est ça.
Vous voyez, c'est important,
oui, hein,
parce que vous avez raison, hein, la tâche mentale des femmes, j'aime bien l'image de Philippe Arlin, qui est sexothérapeute, qui dit la femme, elle a plusieurs piliers de dossiers, et finalement le dossier du plaisir, il se retrouve enfoui sous tous les autres dossiers. Ben, il faut le ressortir et remettre sur le dessus de la pile. Et c'est ce que vous faites quand vous laissez votre imaginaire érotique fonctionner.
Ouais.
Vous comprenez?
Pour toujours être dans la mouvance de ressentir son corps. Mais
oui,
c'est vrai que le mot,
oui,
pour moi, c'était un petit effort malgré tout, parce que je me disais, les biberons, les couches, le machin, je suis fatiguée. Allez, non, arrête de penser. Allez, pense à quelque chose de très très agréable qui te ferait ressentir des choses avec... une atmosphère particulière, et hop, l'imaginaire.
Oui,
mais il fallait que je prenne ce temps-là.
Vous éliminez les inhibiteurs, si je puis dire. Pour, voilà, c'est ça, vous balayez devant chez vous, et il ne reste plus que le désir.
Mais oui, et c'est toute la difficulté aussi du couple quand une femme est avec un homme et que le soir pendant le dîner il y a un petit échange délicat, pas très agréable, c'est pareil, il y a l'inhibiteur qui se met en route et puis après c'est difficile d'avoir un rapport sexuel. C'est toute la complexité du fonctionnement féminin. C'est moins vrai chez l'homme.
J'allais redire le mot.
Oui.
Je ne dirai plus Brigitte.
Si, si, allez-y, mais... dites-le aussi, ça vous fait plaisir de le dire.
En fait, c'est parce que, vous voyez, dans un canapé, on regarde la télé, vous êtes épuisé de la journée, et entre guillemets, alors du coup, je me forçais à prendre la main, à me coller, à contre l'épaule, etc., pour que les corps à corps se touchent. Et puis qu'on puisse doucement glisser dans quelque chose de beaucoup plus doux et romantique, qui fait que peut-être il y aura qu'un baiser ou on aura un rapport sexuel tranquillement, mais il y avait derrière, enfin dans mon sens, ce petit effort à faire.
C'est vrai.
Cette force à avoir, à se dire non, on va pas s'endormir comme ça, c'est possible. Moi j'ai envie de le ressentir, sentir son odeur qui me touche, même s'il se passe rien, il y a quelque chose qui avait un ordre de force ou d'effort. Mais peut-être que c'était intuitif et pas...
Mais Laura, c'est pareil pour plein de choses. Si on veut garder un corps un peu musclé, il faut faire l'effort de faire du sport. Si on veut rester avec une silhouette pas trop épaissie, il faut accepter de temps en temps de ne pas manger comme un grand gourmand. Enfin, l'effort fait partie de l'hygiène de vie, non, Christian Jamin?
Oui, en fait, le mot effort ou pas effort, ça revient au même, quoi. En gros, ça veut dire que vous dégagez les obstacles à votre désir. C'est-à-dire que vous avez envie de désir et ce désir est bloqué parce que vous avez vécu dans la journée, parce que, comme vous l'avez expliqué, et une fois que vous avez balayé tout ça, eh bien, il reste plus que la liberté du désir.
Mais ce que vous avez dit d'essentiel, Laura, c'est que vous avez dit, j'écoute mon corps, je ressens mon corps, je suis dans mon corps.
Ah ouais.
Ben oui, mais c'est pas le cas de toutes les femmes.
C'est tellement bon de pouvoir se ressourcer à l'intérieur de soi.
Mais oui, mais c'est la récompense. C'est la récompense de l'effort. Non mais c'est la récompense de l'effort. Et c'est peut-être quelque chose que notre société a tendance à oublier, à rappeler aux enfants, quoi. C'est pas tout de suite, c'est la récompense de l'effort.
C'est tellement vrai.
Ben oui.
Et si je peux ajouter quelque chose.
Bien sûr, allez-y.
Parce que ça, c'est le recul maintenant que j'ai 50 ans. Mes hormones ont pris le dessus, mais j'ai bien écouté ce que vous aviez dit par rapport à la tête qui se passait, effectivement. Et j'ai longtemps été réticente à prendre des hormones de substitution. Donc j'ai laissé faire la nature en me disant oui, ça va passer, je vais avoir mes pensées qui vont bien, etc. N'empêche que j'ai repris des hormones de substitution et je les conseille en tout cas à beaucoup de femmes parce que ça m'a fait revivre. J'ai eu l'impression, encore une fois, de me retrouver vraiment avec le corps dont j'avais envie, une belle lubrification, des envies, une texture, une couleur de tout ce qui était mon appareil,
mes organes génitaux avant, oui.
Et vraiment. Et là, je me suis... Et pourtant, j'étais pas très envie d'en prendre parce que j'avais plein d'a priori. Et mon gynéco qui a été formidable m'a dit, mais n'importe quoi, essaye et au pire, vraiment, si ça va pas, on verra autrement. Et j'ai vraiment fait. Et je me dis que maintenant, allez, c'est si je peux le conseiller.
Bon, le message que lance Laura, vous voulez réagir, j'imagine, Christian Jamin.
Oui, c'est parce qu'il y a eu une désinformation depuis très longtemps à cause d'une étude américaine qui avait été extrêmement négative, et le principe de précaution, l'horrible principe de précaution, a fait qu'on a dit alors si ça peut donner ça, il faut bannir tout ça. Et c'est pour ça que maintenant il y a deux mots. Il y a le traitement hormonal de la ménopause, appelé THM. Et puis, il y a le traitement, ce que vous avez dit, je l'ai bien entendu, substitutif. C'est-à-dire qu'on remplace, on remplace ce que l'âge a fait disparaître chez vous avec les mêmes hormones et les mêmes hormones et les mêmes, j'allais dire, voies d'administration. Donc, il faut bien comprendre que le traitement hormonal de la ménopause a eu mauvaise image et que probablement, en grande majorité, si ce n'est totalité, de fausses informations.
Eh bien, merci Laura de ce témoignage qui lui redonne ses lettres de noblesse à ce traitement hormonal substitutif. Alors, on va continuer après les infos à aider les hommes et les femmes à comprendre la sexualité féminine grâce à Christian Jamin qui est avec nous. Mais Christian, vous n'échappez pas à la devinette du jour. On a parlé de César pendant le déjeuner, hein, grâce à votre salade. Et bien, du coup, je vous propose cette devinette. Quelle est la phrase sexuelle célèbre de César? Vous avez le temps des infos pour me la trouver.
Sud Radio Carcassonne.
104.7.
Sud Radio.
Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky.